La nouvelle année, on y est presque, hein, est traditionnellement la période où l'on prend de bonnes résolutions. Je vais faire du sport, je parle pour vous, moi ça va. Hein, ça. Je vais reprendre la lecture, je vais m'investir davantage dans l'église, ça m'a échappé, je suis désolé. Toutes ces bonnes résolutions ont une chose en commun, elles durent ce que durent les roses, c'est-à-dire pas très longtemps. Rien n'a jamais changé en ce bas monde, ni dans le royaume de Dieu, en se reposant sur de bonnes intentions. Alors, je ne vais pas non plus aujourd'hui vous parler d'objectifs, en tout cas pas tout de suite. Non, à l'aube de cette année nouvelle, je pense qu'il est préférable de nous appuyer en termes d'avenir sur quelque chose de sûr. En l'occurrence, ce que dit la parole de Dieu de la communauté des croyants. La communauté est ce qui revêt, il faut le dire, hein, c'est important. La communauté est ce qui revêt le plus d'importance aux yeux de Dieu. Et elle est pourtant de nos jours le parent pauvre de la vie des chrétiens. C'est le lieu d'investissement par excellence en termes d'engagement, d'énergie et de finances. Pourtant, il semble que de nombreux chrétiens préfèrent investir ailleurs, mettre du temps, de l'argent et de l'énergie dans des choses périssables. C'est un choix, mais rappelons tout de même que les choix ont des conséquences et que quand on parle des choses de Dieu, les conséquences en question ont une fâcheuse tendance à devenir éternelles. Notre société a évolué, ça ne vous aura pas échappé, et il en a été de même pour toutes les sociétés à chaque époque de l'histoire. Le défi de l'Église a donc toujours été le même, transmettre un message de vie et d'amour venant d'un Dieu éternel et immuable, donc qui ne change pas, au sein d'une société de plus en plus versatile et qui change tout le temps. Aujourd'hui, on a élevé le changement comme sorte de critère référencé absolu, ah, du moment que ça change, c'est forcément positif. Ah, vous le savez, ce ne sont pas les textes concernant la communauté qui manquent, en particulier forcément dans le Nouveau Testament. J'ai pourtant décidé d'emprunter un texte dans l'Ancien. C'est mon côté contradictoire. Un psaume, le psaume 133, qui fait trois versets. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Aaron, le premier grand prêtre de l'histoire d'Israël, le frère de Moïse, qui était le premier grand prêtre à officier devant Dieu. Et voilà ce que dit ce psaume 133, qui est parfois, qu'on attribue parfois à David, mais on n'en est pas sûr. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, petite précision, l'huile dont on parle, c'est l'huile d'onction. Hein, donc, le prophète versait cette huile et ça consacrait le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre en question, dans ses fonctions. Alors, je reprécise, même si j'ai déjà fait, parce qu'on voit huile, ce n'est pas de l'huile de friture. Donc, vraiment, hein, ce n'est pas de l'huile à salade. C'est du parfum, en fait. Et si vous voulez voir la composition de cette fameuse huile d'onction, vous allez relire le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, et vous trouverez les aromates qui constituaient ce parfum. Je ne suis pas fait spécialiste, hein, mais quand je lis les aromates, je me dis, waouh, ça devait quand même bien dégager, quoi. Alors, il est probablement nécessaire quand même d'expliquer un peu le contexte de ce psaume. Si nous voulons saisir le sens de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui à nous, son Église, pourtant à partir d'un texte de l'Ancien Testament. Ce psaume est un psaume dit des montées. Pourquoi? Parce que chaque année, de nombreux Juifs, habitant en dehors d'Israël, ou dans une région autre que la Judée où se situait le Temple de Jérusalem, venaient en pèlerinage dans la ville sainte, pour les grandes fêtes, comme la Pâque, par exemple, ou parce qu'ils avaient fait le vœu de se rendre dans le Temple. Jérusalem était située sur une colline, elle est toujours d'ailleurs. Quand vous voyez un plan de Jérusalem, vous voyez qu'elle est sur une colline, elle est située sur le mont Sion. C'est le nom de la colline où se situe la ville. Ce qui fait tout simplement que pour y parvenir, il fallait monter. Alors, quitte à monter, autant le faire de la meilleure manière qui soit, en chantant des louanges en l'honneur de Dieu. Ces psaumes des montées étaient donc chantés lors de ces pèlerinages en montant vers Jérusalem. Le psaume 132, qui est aussi un psaume de montée, dit que l'Éternel, donc Dieu, a choisi le mont Sion pour y établir sa demeure, donc le temple de Jérusalem. Par là même, il a donné aussi un signe ou un lieu de ralliement pour son peuple. C'est en sa présence que les pèlerins accourus de tout pays goûtent la joie de se sentir frais, c'est-à-dire d'appartenir à un même peuple, à une même communauté. Le psaume 133 donne l'expression de cette joie intense, intense, d'appartenir à Dieu et à son peuple au sein duquel tous sont frères et sœurs. Ce psaume constitue la fin du recueil des chants de pèlerins. Il y a encore le psaume 134 et puis c'est clôturé. Donc ça va du 120 au 134. Et ce psaume fait écho. Et en fait, la contrepartie au début du psaume 120 qui ouvre le psautier des montées et qui dit « Mon âme en a assez d'habiter avec qui est » du verbe haïr, avec qui est la paix. Il faut quand même se mettre à l'époque à la place des Juifs qui habitaient en dehors du territoire d'Israël, qui étaient donc entourés de gens qui ne partageaient pas leurs croyances, leur foi, ni les conséquences de leur foi. À savoir une vie qui était réglée sur la pensée de Dieu, la parole de Dieu, des gens qui essayaient d'être fidèles à ce que Dieu demandait. Donc pour un juif pieux, vivre en dehors du pays de la promesse constituait vraiment une épreuve en termes de coutumes et de moralité, parce que c'était un peuple qui avait été mis à part par Dieu. Car dans la pensée biblique, le juste, celui ou celle qui connaît Dieu, souffre de l'injustice du monde dans lequel il est plongé au quotidien, et il aspire donc à retrouver Dieu et ses frères. Il se languit du temple et de la présence de ceux qui aspirent aux mêmes choses que lui, qui adorent le même Dieu que lui. Donc ce psaume 133 exprime la communion fraternelle enfin retrouvée par tous ces pèlerins. Il y a d'ailleurs un verbe très intéressant utilisé dans une des images de ce psaume. C'est le verbe « descendre ». C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Et puis aussi, cette huile d'onction qui descend sur la barbe d'Aaron et qui couvre le col de son vêtement. La communion fraternelle est pareille à ça. Et pour le pèlerin qui a manqué de cette communion et qui est allé de montée en montée pour arriver jusque-là, le verbe descendre n'a rien d'anodin. On a une expression dans les milieux chrétiens, parfois quand on vit des choses assez intenses avec Dieu, lors d'une retraite ou peu importe, ou d'un camp d'église, ou appelons ça comme on veut, on parle souvent d'avoir été sur la montagne. Et quand la période arrive à sa fin, on va devoir, ce qu'on appelle, redescendre dans la vallée. Et on en fait un pataquès, on se dit oh, « on aimerait bien rester ici, on peut redescendre ». Oui, mais le problème, c'est qu'apparemment, il faut redescendre. Et dans le psaume, il nous est dit que monter vers Dieu, c'est une bénédiction, mais redescendre vers les hommes, c'est aussi une bénédiction. Il n'y a pas à dramatiser la chose. Le verbe descendre, même si ça peut paraître paradoxal, en tout cas je pense que ça l'est pour nous, ça n'a rien d'anodin et c'est surtout très positif, redescendre vers les hommes. Contrairement peut-être d'ailleurs à ce que pensait notre pèlerin en montant, la communion avec Dieu passe aussi avec celle des hommes. Dieu ne nous appelle pas à être seul avec lui. C'est à cela que le croyant est appelé, à redescendre vers les hommes, porteurs de la lumière de Dieu. Ça me fait penser à une autre montée que Jésus a faite, quelques siècles plus tard, accompagné de ses trois plus proches disciples, Jean, Jacques et Pierre. On va prendre ce texte. On le retrouve dans Marc et dans Matthieu. 6 jours après, ils sont dans la région de Césarée, hein, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sous la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. À l'époque, ils sont morts tous les deux, hein, à part Élie qui est enlevé au ciel. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici, ah, tu m'étonnes. Faisons 3 abris, ou 3 tentes, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne pas dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Sur cette montagne, nos trois disciples ont reçu, c'est ça la transfiguration en fait, ont reçu une vision de Dieu. Ils ont en fait reçu le fait, la vision que le Christ, que Jésus est Dieu. Et cette vision était tellement forte et effrayante que le désir de Pierre, et on peut le comprendre, hein, moi je pense que j'aurais proposé la même chose à Jésus, le désir de Pierre était que ça ne s'arrête pas, que ça ne finisse jamais. Maître, il est bon que nous soyons ici. Donc je suis sur la montagne, je suis bien avec Dieu, il est là, magnifique, il y a plein de lumière partout. Faisons trois tentes, un pour toi, un pour Muse et pour Élie. Et puis quelque part dans sa tête, et puis j'en ferai une pour moi, et pour mon copain Jacques, et pour mon copain Jean, on va rester ici et ça va être le pied. Malheureusement pour Pierre, il a fallu redescendre. Et si vous avez un peu de mémoire, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, c'est ce qui est précisé, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé juste après être descendus ? Un père malheureux parce que son fils épileptique se blessait profondément et violemment à chaque fois qu'il faisait une crise. Donc il retrouve directement, après cette vision de Dieu, un malheureux et son fils épileptique. Autrement dit, ils ont découvert encore et toujours de la souffrance à soulager, de la lumière à apporter au sein des ténèbres, de l'amour et de la communion à partager. C'est super de connaître Dieu. J'espère quand même que vous êtes un peu convaincus. De se savoir aimer de lui. C'est vraiment formidable. Mais ça ne sert à rien si nous ne comprenons pas que cela veut dire aimer les autres et être là pour eux. De plus, il faut le relever que tous les disciples n'ont pas fait l'expérience de la transfiguration. Il y en avait 12, les disciples, hein, les plus proches. Ils ne sont que 3 sur les 12. Les autres sont là, hein, au pied de la montagne. Mais Jésus les laisse au pied et il n'en prend que 3 avec lui. Ce qui me fait dire que sans être un disciple et un proche de Jésus, nous ne vivrons jamais de moments aussi intenses que celui-là. Ça a un prix d'avoir d'autres priorités que Jésus. En fait, si ce très beau psaume nous dit quelque chose de Dieu, ce psaume 133, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il bénit. Ah, c'est déjà pas si mal, me semble-t-il. Hein. Mais il nous dit aussi quelque chose de la façon dont il bénit, au travers justement de ces deux très belles images. On cherche la bénédiction de Dieu partout. On lui demande sa bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Et quand on réfléchit, c'est souvent très égocentrique, nos demandes. Elles sont souvent très égocentriques. Il n'empêche que Dieu ne bénit pas n'importe comment. La première image que le psalmiste va employer pour parler de cette bénédiction est celle du mont Hermon. Geoffrey devait être content. Il y a de la neige et il y a des montagnes. 2815 mètres d'altitude. Je sais bien que ce n'est pas très haut, Geoffrey. On ne va pas pouvoir aller skier là, mais bon. De toute façon, il y a des tirs de roquettes, hein, donc il faut faire attention. Cette chaîne montagneuse embrasse le Liban et la Syrie et est donc située à la frontière nord-est d'Israël. Ce qui est très intéressant, c'est que le mont Hermon est donc en dehors du territoire béni d'Israël. Donc le psalmiste nous dit que c'est une montagne en dehors du territoire de la promesse qui bénit le territoire de la promesse par la rosée abondante. Donc aujourd'hui, il paraît qu'on peut y aller voir. Hein. Il y a une rosée le matin, un truc de fou. Hein. Ça irrigue, ça pousse dans tous les sens. Ce qui me fait dire que la bénédiction de Dieu peut venir de n'importe où, même du dehors de notre petit monde étriqué. Dieu peut se servir de n'importe quoi et même de n'importe qui pour vous bénir. Même au nom chrétien. Vous savez, dans certaines périodes très difficiles de ma vie, les choses, mais vraiment, à des moments où j'étais vraiment à la limite sur la faille, hein, de tomber d'un côté ou de l'autre, en ce qui me concerne, ce sont des personnes non chrétiennes qui m'ont dit quelque chose que j'ai très bien compris comme venant de la part de Dieu. Donc un gars, à un moment où j'étais revenu d'une certaine forme de violence, qui m'a dit, ça je m'en rappelle toute ma vie, « Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ?» Il dit « Moi, j'y connais rien au pasteur, je ne sais pas ce que c'est un pasteur. » Il dit « Mais moi, je sais un truc, c'est que tes mains sont faites pour bénir et rien d'autre. » Pan ! Et le mec était athée. C'est interpellant ça quand même. Enfin, moi, ça m'a interpellé, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, sortons de notre tête que Dieu est limité dans la sphère qui peut nous amener de la bénédiction. Mais c'est toujours de l'humain, souvent. Ce qui me fait dire aussi que nous n'avons pas à chercher dans les étoiles ce qui est du monde créé. Le la plus grande bénédiction que Dieu vous donne sur cette terre, c'est l'autre. Tu sais. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour beaucoup de théologiens, il est probable que le mont de la Transfiguration, cette montagne où sont montés Jésus et ses trois disciples préférés, on va le dire ça comme ça, ou les plus proches de lui en tout cas, qui s'ouvraient le plus à son amour, c'était le mont Hermon, parce que Césarée, où il se trouve juste avant cet épisode de la Transfiguration, se situe à quelques kilomètres à peine de cette montagne. Donc il est fort probable, on n'en est pas sûr, mais que le mont de la Transfiguration, c'est le mont Hermon. Donc ça fait résonance, peut-être, au psaume 133. Et puis une deuxième image. On parle aussi de bénédiction, c'est cette image de cette huile parfumée et abondante. Pour que ça coule, il faut y aller. Hein. Imaginez un flacon de Chanel 5, c'est le modèle familial, hein, 5 litres. Hein. Et on verse, hein, ça doit dégouliner. Hein. Donc c'est une bénédiction abondante qui est versée donc sur la tête d'Aaron et qui descend le long de sa barbe. Je sais bien, madame, que pour ceux qui n'aiment pas la barbe, ça va être un frère spécial, mais j'aime autant un barbu qui se parfume la barbe, moi, personnellement. Et dont le psalmiste fait une illustration de l'immense bénédiction que constitue la communion fraternelle. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Si, si. Même quand je ne suis pas content, je suis encore une bénédiction pour les autres. Quiconque se met en chemin pour s'avancer vers Dieu fait normalement, si on comprend ça, bien vite l'heureuse découverte, justement, qu'il n'est pas tout seul. Écoutez, mais quand ça ne va pas, qu'on se pose des questions, on va être pratique. Hein, on a souvent tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes, à s'isoler et à se dire « je suis tout seul ». Eh bien non. Non. Pourquoi ? Eh bien parce que d'autres ont aussi pris la route de ce pèlerinage. D'autres pèlerins dont le cœur bat aussi fort que pour celui qui les appelle, à savoir Dieu. Et c'est en allant vers Dieu qu'on découvre des frères et des sœurs. Et en se rapprochant de Dieu, on se rapproche de ses frères et sœurs. Donc je vais dire comme ça, l'autre est donc potentiellement le cadeau de Dieu. Nous sommes en période de Noël, de fête, on s'offre des cadeaux. Vous avez entendu que le lendemain du réveillon, il y a des gens qui vont reporter leurs cadeaux. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur cadeau. Et ils sont filmés à la télé en plus. C'est sympa pour le mec qui a fait le cadeau. Hein. Il y a des sites où vous pouvez revendre vos cadeaux. Je vous assure. Hein. Vous vous rendez compte? Il y a 40% des Belges qui rendent leurs cadeaux. Donc Dieu vous donne un cadeau. Moi, par exemple. Si vous n'acceptez pas le cadeau, essayez de me reporter au magasin, bon courage. Hein. Mais un cadeau, ça s'accueille. Ça s'accepte. Ça se reçoit avec reconnaissance. Ou ça ne se reçoit pas. Ou on ne déballe pas le cadeau. Ne poussez pas l'image trop loin, ça va faire peur. Donc il faut qu'on apprenne à rechercher, à reconnaître les bénédictions de Dieu là où elles se trouvent. On les cherche ailleurs, dans les étoiles, alors que les bénédictions sont là. La communauté est donc une bénédiction, dans la pensée de Dieu en tout cas. Et ça nous dit aussi que nous ne sommes pas l'Église tout seul, nous ne sommes pas chrétiens tout seul. C'est d'ailleurs le sens de la communion fraternelle, ce savoir en communion de vie, d'espérance et de prière avec les autres. Et c'est aussi, accessoirement, le sens de nos rencontres, du fait qu'on se rencontre, qu'on a des réunions. Nous ne sommes pas des îles. Aucun de nous ne l'est. Et quand on veut jouer à l'île, vous savez ce qui va arriver aux îles, hein, avec le réchauffement climatique, elles vont être sous eau. Eh bien, dans notre vie, on va être souvent sous eau parce qu'on se pense une île. On pense que personne ne peut rien pour nous, que personne ne comprend, que personne ne sera là. Eh bien, si. Si. Il y a donc au cœur de ce psaume 133, on reçoit cette affirmation ou pas, hein, mais l'affirmation d'une interdépendance salutaire. Un besoin, une nécessité à bénéficier de ce que l'autre est et a reçu de Dieu. Quand on prend l'exemple, cette image de la bénédiction d'Aaron, de cette huile d'onction sur Aaron, il est le seul souverain sacrificateur à l'époque, il est le seul grand prêtre, il n'y en a pas d'autres qui vont exercer sa fonction tant qu'il sera en vie, il est le seul. Hein. Le risque du peuple, c'est de penser que comme il est le seul à recevoir cet appel, eh bien ce sera pour lui tout seul. Tant mieux pour Aaron, mais moi, qu'est-ce que je reçois? Les autres vont être au bénéfice de son ministère, de ce que Dieu lui a donné, de l'appel de Dieu sur sa vie. Cette onction ne va pas faire d'Aaron un exclu, hein. Il ne va pas ouvrir un monastère, il va rester au milieu de son peuple. Et c'est lui qui va tous les ans intercéder devant Dieu, se trouver seul devant Dieu pour demander pardon à Dieu du péché du peuple et de son propre péché à lui. La bénédiction ici, en fait, hein, à travers son appel spécifique, est donc pour tout le monde. Tout le monde est au bénéfice de ce que Dieu lui a donné. Et je rappelle, parce que ça me paraît important, que Aaron, c'est pour l'histoire ça, mais au moment où Moïse monte sur le Sinaï dans le désert, hein, Israël vient de sortir d'Égypte, hein, il monte sur le Sinaï pour recevoir les tables de la loi, donc les 10 paroles de vie ou 10 commandements. Pendant ce temps-là, dans la vallée, justement, alors que Moïse est sur la montagne, dans la vallée, le peuple se transforme organise une magnifique orgie. Et ça part par quoi? Par Aaron, le frère de Moïse, hein, qui était le porte-parole de Moïse auprès de Pharaon. Le même, il va fabriquer le veau d'or. Et quand il aura terminé cette représentation, il va pas dire, tiens, c'est ton idole Israël. Non, il va dire, Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, ça n'est pas une idole. C'est une fausse image du vrai Dieu. C'est encore pire. Vous connaissez l'histoire. Moïse redescend, il met de l'ordre. Et Aaron, il est mal. Et il faut choisir le premier grand prêtre de l'histoire d'Israël. Le gars qui va, en travaillant sa personne, symboliser la sainteté de Dieu. Et il prend qui, Dieu? Aaron. Il prend le plus grand pécheur de la bande pour être celui qui va se tenir devant lui. Alors si ça, c'est pas de la grâce, mes amis, moi je sais pas comment ça s'appelle. Donc Aaron, il sera le seul à exercer cette fonction, il n'empêche qu'à travers lui, tout le peuple sera béni. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Ça veut aussi que l'huile consacrée, dans la typologie biblique, est un symbole du Saint-Esprit. C'est une onction de l'Esprit que symboliquement Aaron reçoit. Et cette onction du Saint-Esprit se répandra bien au-delà de sa personne, c'est l'image de cette huile qui coule, de ce parfum qui coule et qui coule, qui va vraiment déborder de son vêtement pour s'en aller bénir d'autres, en bénir beaucoup d'autres. Mes amis, il y a de bénédictions véritables que dans le partage. Il y a des années de ça, j'étais encore pasteur ailleurs, dans une autre église. J'avais un frère bien sympa, hein, bien gentil. Hein, il n'était pas spécialement contraire, mais en fait, il avait un côté pentecôtisant un peu exacerbé. Et après chaque culte, il venait me voir et me dire « Pourquoi tu ne nous fais pas lever, taper dans les mains ?» Et je lui ai dit « Si tu veux taper dans les mains, tu tapes dans les mains. » Mais moi, je sais qu'au jouer, par exemple, il y avait une de tes sœurs en Christ à côté de toi qui vient de perdre son fils et qui est dans le chagrin. Alors moi, tu feras ce que tu veux, hein, mais si tu as envie de te lever et de faire le poirier et de faire « Oh, le Seigneur est grand !» alors qu'elle vient de perdre son gamin, moi, tu fais comme tu veux. Mais être vraiment chrétien, c'est aussi s'oublier soi pour rejoindre celui qui est dans la peine. Vous comprenez l'interdépendance? Si vous êtes dans la joie et que Dieu bénit et que c'est merveilleux et que tout va bien, tant mieux! Tant mieux! Mais à côté de vous, vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans cette situation-là. Et il sera prioritaire à ce moment-là. Alors, vous savez comment que l'autre est un autre, nous sommes tous différents. Hein, c'est juste. Hein. Et pourtant, cet autre qui est tellement différent de moi, il est semblable à moi. L'autre est un autre, et pourtant, je n'existe vraiment que dans son regard à lui ou dans son regard à elle. Comment vous avez pris conscience de votre existence? Parce que d'autres vous ont dit, tu existes, tu es là, on entre en relation avec toi. L'autre est un autre, et pourtant, je dois apprendre à me discerner en lui. Parfois, ses faiblesses sont les miennes, ses qualités aussi parfois. Nous avons besoin des autres. Et pourquoi en avons-nous besoin? Parce que c'est le tout autre, à savoir Dieu qui nous le dit. Et déjà parce que Dieu qui est trinitaire, qui se suffisait totalement à lui-même en termes d'amour et de communion, il a décidé de créer l'homme pour nous transmettre cette densité de communion et de relation entre nous. Alors que faire de tout ça en ce début d'année 2019? On y est bientôt, hein. Même si je suppose que vous avez quand même capté une petite idée de ce que ce psaume est supposé nous transmettre. Tout d'abord, et pour ne pas laisser en route un enseignement biblique fondamental, se rappeler que si Aaron a reçu l'onction de grand prêtre, celle-ci était passagère et marquée par la finitude. Pour le dire plus clairement, Aaron est mort, ça vous êtes au courant quand même, le pauvre, il aura quelques milliers d'années, et sa lignée de prêtres qui découlait de lui et de Moïse est finie aussi. C'est la lettre aux Hébreux qui nous dit ça. C'est Melchisédek, hein. Je parlerai un peu de Melchisédek après. De plus, il y eut des prêtres lévitiques, donc dans la descendance de la tribu de Lévi dont étaient Moïse et son frère Aaron. Il y eut des prêtres lévitiques en assez grand nombre. Pourquoi ? Ben parce que la mort les empêchait de rester en fonction tout le temps. Mais lui, il parle de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, il parle toujours de Jésus, hein, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, dans le temple donc, d'abord pour ses propres péchés à lui, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice sur la croix. En effet, la loi, dans la loi de Moïse, établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment, donc dans la Nouvelle Alliance, prononcée après l'instauration de la loi établie le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Et un autre passage, il dirait, Jésus ne fait pas partie de l'ordre des Lévites, mais de l'ordre de Melchisédek. Ta-ta-tan. Personne n'a jamais entendu parler de Melchisédek, je me trompe. Alors j'ai fait un rap, je vais vite en parler. Comme ça, l'enseignement théologique biblique de base sera intégré, du moins j'espère. Il y a trois mentions de Melchisédek dans toute la Bible. Il y a une mention dans le livre de la Genèse, donc ça revient assez vite, dans le premier livre de la Bible. Il y a une mention de lui dans un psaume de David, le psaume 110, et il y a pas mal de mentions de lui, plusieurs, dans l'épître aux Hébreux, qui, comme son nom l'indique, s'adressait d'abord à des chrétiens issus du judaïsme, à qui cette image de Melchisédek devait renvoyer. Alors pourquoi est-ce que l'auteur, dont on ignore le nom, pourquoi est-ce que l'auteur de cette épître fait référence à Melchisédek quand il dit que le Christ est grand prêtre, non pas dans l'ordre de Lévi, qui est marqué par la mort, mais dans celui de Melchisédek, qui est un sacerdoce éternel et universel. Ça veut dire quoi ? Eh bien, dans le livre de la Genèse, je passe les détails, rappelez Abraham, qui est le père de tous les croyants, spirituellement en tout cas, par les chrétiens bien sûr, il a déjà été béni par Dieu. Et puis une bataille contre des rois qu'il gagne, il prend du butin. Et là, le verset suivant, il se retrouve face à face avec ce fameux Melchisédek qui, nous dit le texte de la Genèse, est roi de Salem et grand prêtre de la ville. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. D'accord ? Ce qui est très intéressant, c'est que Abraham va vers lui, se prosterne, lui remet la dîme de tout ce qu'il a. Hein ? C'est pas moi, c'est lui. Hein. De tout ce qu'il a, et le fameux Melchisédek le bénit. Attendez, qui peut bénir après Dieu ? Il a été béni par Dieu, Abraham. Quelque temps plus tard, il se retrouve face à face avec ce fameux Melchisédek. Il se soumet à Melchisédek, lui donne la dîme de tous ses biens, et Melchisédek le bénit. Et l'auteur des Hébreux rappelle, ce gars n'a aucune généalogie. Chaque fois qu'il y a un personnage historique qui apparaît, dans cet testament, il y a une généalogie. Lui, il n'en a pas. Pas de début, pas de fin. C'est qui Melchisédek ? C'est une préfiguration du Christ. Paf ! Allez hop, envoyé. Et je vous aide un peu. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Melchisédek, Jésus, est de cet ordre-là. Il est le seul à faire partie de cet ordre, qui est un ordre éternel. Je voulais quand même préciser ça, puisque j'ai mis... une très belle icône de notre ami Melchisédek. Bon, la couronne n'est pas terrible, mais bon. Alors, pour en venir à Aaron, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains en l'an 70. Et que dès lors, depuis l'an 70, il y a les prêtres, il y en a toujours, hein, c'est les Cohen. Chaque fois que vous croisez un juif qui s'appelle Cohen, ça signifie prêtre, ce sont les descendants de Lévi. C'est la lignée sacerdotale, l'ancienne, d'Aaron. Et de Moïse. Et tous les ans à Jérusalem, tous les Cohen de Jérusalem montent sur la muraille et bénissent Israël. Mais il n'y a plus de temple, ils ne savent plus apporter de sacrifice. Et ce qui est très intéressant avec cette épître, c'est qu'elle a été écrite quelques années avant la destruction du temple et que l'auteur annonce la destruction du temple. Donc c'est bien la preuve historique et matérielle que la sacrificature de Lévi a pris fin. Plus de temple, plus de lieu de sacrifice, plus de prêtrise. Normal, dit-il, l'auteur, puisque notre grand-père pour l'éternité, c'est Jésus, c'est le Christ. Autrement dit, le sacerdoce lévitique, inauguré par Aaron, a bel et bien été frappé d'obsolescence programmée par Dieu. Donc celui qui se trouve dans la présence même de Dieu et qui prie pour nous, au moment où je parle, c'est le Christ. C'est lui notre le grand prêtre de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Ensuite, deuxième implication qu'on peut déduire de tout ce que nous avons dit, que si nous sommes nous aussi des pèlerins et des voyageurs sur cette terre, ce monde n'étant plus le nôtre quant à ses désirs et ses valeurs, nous n'avons plus à nous rendre à la maison de Dieu, au temple. Nous sommes cette maison. L'Église est habitée par le Saint-Esprit ainsi que chacun de ceux parmi nous qui avons accueilli par la foi l'œuvre de grâce et d'amour accomplie par le Christ. Le temple, c'est nous. Il n'y a pas encore des petits oiseaux qui se foutent de nos métifs, parce que je pense à un psaume de David qui disait « Seigneur, même dans ton temple, je languis après ta maison, où même les petits oiseaux du ciel trouvent refuge. » Ben oui, il y avait des oiseaux qui faisaient leur nid dans le temple. Ils ne vont pas vous faire leur nid dans vos cheveux, ça c'est la limite de l'image, mais vous êtes, je suis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puis je termine vraiment en vous disant, mais ça ne vous surprendra certainement pas, que mon plus profond désir, c'est qu'en cette année 2019, nous puissions approfondir nos liens fraternels et surtout aussi en inclure d'autres dans la grande ronde de l'amour de Dieu. Je vous souhaite une bonne année 2019 et surtout une année bénie de la présence lumineuse de notre Dieu. Amen.